France Culture.
Entrez, les midis continuent à 13h. J'aurai le plaisir de discuter avec le comédien Sergi Lopez. Mais tout de suite, place au Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Nous commémorons aujourd'hui le 120e anniversaire d'Arthur Koestler, écrivain juif hongrois, adulé et haï, militant sioniste et communiste renégat. Il reste pour la postérité l'auteur de Le Zéro et l'Infini. L'engagement antitotalitaire d'Arthur Koestler, c'est le dossier du Point Culture du jour. Stéphane Cochelin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et essayiste et vous venez de signer aux éditions du CERF une biographie, Arthur Koestler, La fin des illusions, livre dans lequel vous tentez de cerner la vie et l'œuvre de cet écrivain alors qu'il y a eu 1000 vies. Comment le présenter brièvement, Arthur Koestler? Je sais que c'est une question difficile, mais comment vous pourriez nous le présenter?
C'est un écrivain aventurier qui a voulu faire de sa vie un roman et qui a été très important puisque en 1940, il a publié ce texte majeur qui s'appelle Le Zéro et l'Infini, dans lequel il dénonçait pour la première fois les procès de Moscou. Et c'était intéressant parce que c'était un écrivain qui venait de l'intérieur, donc il venait du centre névralgique du communisme et il avait rompu avec le communisme. Donc j'ai pensé que c'était intéressant de revenir vers cet auteur qui était d'ailleurs le plus célèbre auteur écrivain dans les années 40, 50, 60, les gens le détestaient, Elsa Triolet le traitait de scélérat, Sartre, Simone de Beauvoir le conspuait, parce qu'évidemment il avait trahi un petit peu la cause. Et donc je pensais qu'avec le retour de l'Union soviétique, de Poutine, des procès de Moscou, c'était intéressant de revenir vers l'expérience de cet écrivain qui, à partir de 1989, est complètement tombé dans l'oubli. Parce qu'évidemment, avec la chute du mur, on a cru que le discours de Koestler n'était plus tout à fait pertinent. Et maintenant, je pense qu'il redevient pertinent. Son anti-idéologisme est très, très intéressant à suivre.
Vous pourriez nous le définir, cet anti-idéologisme-là ?
Ben en fait, quand il naît en 1905, il naît alors que les grands empires monarchiques, l'Empire austro-hongrois, l'Empire de Guillaume II, s'effondrent à la suite de la Première Guerre mondiale. Et donc, s'ouvre une page blanche pour toute une génération, celle qui est née au début du XXe siècle, comme Arthur Koestler. Et donc, il faut inventer un nouveau régime, inventer de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Et il y a quand même deux idées qui s'offrent aux juifs Koestler, le sionisme, c'est-à-dire la conquête de la terre, d'une nouvelle terre où il n'y aurait pas d'antisémitisme, où les juifs pourraient vivre tranquillement, et le communisme qui va inventer un nouveau régime, un nouveau style de vie, et donc il va tenter les deux idéologies. Et évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu, il va déchanter assez vite.
Alors vous l'avez dit, son grand œuvre, celui pour lequel il est encore connu aujourd'hui, c'est Le Zéro et l'Infini. Pourquoi est-ce un livre important et qu'est-ce qu'il dit surtout des idéologies à un lecteur de 2025 ?
C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas le premier à dénoncer le stalinisme. Il y en a eu un peu avant. On sait qu'André Gide avait écrit un retour d'Union soviétique, où il dénonçait un petit peu la mise en scène assez sordide de Staline. Mais Koestler, c'est un écrivain d'Europe centrale qui est juif, donc il prend de plein fouet l'antisémitisme. Il s'engage après dans le communisme. Il devient espion du Comintern. Et donc, il connaît très très bien les rouages de l'Union soviétique. Et Le Zéro et l'Infini raconte la disgrâce d'un militant communiste très 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 déterminé et qui tombe, comme beaucoup de militants communistes dans les années 30, lors des purges que Staline a faites. Et donc c'est une confession d'un militant communiste qui sait qu'il va mourir et qui se trouve face à un interrogateur, un tortionnaire qui va essayer de le mettre en difficulté. Et il y a tout un discours très 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 angoissant. Dans tout, c'est un huis clos, ça se passe dans une prison, donc on est dans l'enfermement.
Il a été accusé, Koestler, d'opportunisme politique. Alors, vous l'avez expliqué, il a radicalement changé de camp au cours de sa vie. Mais qu'est-ce qu'il cherchait au fond de lui ? Moi, j'ai toujours l'impression, en le lisant, qu'il y a quand même une quête d'absolu. Est-ce que ce mot est trop grand ?
Alors, il y avait peut-être une quête d'absolu, mais je pense que plus que la quête d'absolu, c'est la quête d'aventure. C'est un écrivain qui cherche l'aventure. Il veut voyager. Alors, très vite, il a vraiment envie de devenir écrivain. Alors, évidemment, il se ment à lui-même parce que il va essayer de monter un kibbutz en Palestine. Il va voyager là-bas. Mais finalement, la communauté ne va pas bien le recevoir parce qu'elle sent qu'il n'est pas tout à fait déterminé, en fait. Et il cherche le coup de feu. Il cherche l'émotion forte. Que ce soit d'ailleurs dans ses conquêtes amoureuses un peu, parce que c'est un conquérant. Il veut conquérir de nouvelles terres, il veut conquérir des femmes, il veut conquérir des idéologies. Mais tout ça avec un arrière-plan d'aventure. Et c'est un vrai aventurier. Donc j'ai conçu ce récit vraiment comme un roman d'aventure très intéressant parce qu'on voyage quand même beaucoup.
Alors il y a une autre partie de sa vie que je trouve moi complètement fascinante, c'est son appétence pour la parapsychologie. Ça l'a d'ailleurs un peu décrédibilisé hein, à l'époque auprès de quelques figures intellectuelles. Que pensez aujourd'hui de ces travaux-là, selon vous ?
Alors, ces travaux-là sont bien obsolètes, malheureusement pour lui. C'est-à-dire que Koestler voulait être un grand romancier, mais il n'a pas réussi à rééditer la suite du Zéro et l'Infini, et ses romans suivants ne sont pas du même niveau que le Zéro et l'Infini. En plus, il avait comme ami George Orwell, qui est un écrivain plus considérable que lui, qui a écrit 1984, qui est un chef-d'œuvre absolu dans l'histoire de la littérature du XXe siècle. Donc, il avait cet exemple-là à côté. Donc, il s'est lancé dans des travaux comme les travaux fumeux, on peut dire. Hein. Donc, c'est pas cette partie-là qui reste de lui, en fait. Parce que moi, j'ai relu ses textes à ce moment-là, L'étreinte du crapaud, des textes comme ça. Ce sont des textes très, très, ébouriffants, un petit peu étouffants, un peu vieillots, avec de belles parties, hein, parce qu'il a quand même un sens poétique assez élevé. Alors, il peut s'intéresser à Galilée, il s'intéresse un petit peu aux astres, un peu à l'espace, à la science. Hein. Ça a été un grand journaliste scientifique aussi, mais ses travaux techniques, scientifiques sont un peu démodés, et c'est pas cela qu'on peut retenir par rapport à toute son œuvre autobiographique qui est assez fabuleuse.
Ce qu'on peut retenir, et ce sera peut-être le dernier mot, Stéphane Gauchelin, c'est sa fin. Il se suicide avec sa femme. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce dernier acte-là ? Ça aussi, c'est un acte d'aventurier et de romancier.
Ah, c'est un acte presque stoïcien, à la grecque. C'est-à-dire qu'effectivement, par lucidité, comme il a la maladie de Parkinson, et il est malade, il sait qu'il va mourir, donc, et que sa santé ne va pas s'améliorer, il décide, d'abord, il militait pour le droit à la fin de vie. Hein. C'est un débat que nous avons actuellement. Tous les débats de Koestler sont très actuels, sont très pertinents aujourd'hui. Donc, il décide d'en finir. Et alors, on a cru que sa femme, Cynthia, l'avait suivi dans le suicide. Mais en fait, c'est elle qui a pris la décision, en voyant le corps de son mari sur un canapé en face, immobile, elle a pris la décision de le suivre. Parce qu'elle a été sa secrétaire, son amoureuse, elle relisait ses textes. Il n'était pas toujours très agréable avec elle, parce que c'est un personnage très, très lunatique, très, très angoissé, très dépressif. Il y a beaucoup de dépression dans l'œuvre et dans la vie de Koestler. Donc, il a décidé d'en finir. Un peu comme Stefan Zweig avec son épouse en 1940, un peu comme beaucoup de Kleist par exemple. Donc il a été très très frappé par ces couples, ces suicides amoureux. Et donc il a décidé lui-même d'en faire. Mais il n'avait pas entraîné sa femme dans la mort.
Merci beaucoup Stéphane Gauchelin. Je rappelle que votre livre Arthur Koestler, La fin des illusions, vient de paraître aux éditions du Cerf et que les éditions Kalman-Lévy vont rééditer hein, à l'occasion des 120 ans de l'anniversaire de la naissance de Koestler. Beaucoup de ses textes, c'est l'occasion de le relire. Merci beaucoup.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, des artistes menacés d'expulsion à Paris.
Oui, installé depuis le milieu des années 80 au Frigo, ancien bâtiment de la SNCF dans le 13e arrondissement, devenu un lieu emblématique de la scène artistique parisienne, une dizaine d'artistes risquent d'être expulsés par la mairie de Paris dans les prochains jours. Une audience a été fixée ce lundi 8 septembre au tribunal administratif pour entériner leur expulsion, tandis que la mairie refuse depuis 2 ans de rencontrer les artistes concernés par cette décision. Dans un communiqué, le collectif des Frigos déclare « Nous, résidents des Frigos menacés d'expulsion, n'accepterons pas ce comportement venant de la Ville des Arts et de sa maire. Nous défendrons nos ateliers car nous les avons construits de nos mains, comme nous défendrons nos professions car elles sont notre raison de vivre. »
Et pour finir, Marie, le musée Cocteau à Menton risque de perdre sa collection.
Oui, inauguré en 2011, ce lieu accueille les 1800 pièces de la collection Séverin Wüderman, homme d'affaires américain, qui en avait fait don à la ville de Menton en 2005, et parmi lesquelles on retrouve près de 1000 œuvres de Jean Cocteau. Mais depuis plus de 7 ans, le musée est fermé au public à cause des dommages causés par une très forte tempête en octobre 2018. La mairie a reçu cet été un courrier de la fondation Wüderman qui demande la rétrocession des œuvres de la collection, au motif qu'elle ne serait pas exposée dans les conditions voulues par son donateur, à savoir de manière permanente dans un grand musée. Un bras de fer juridique vient donc de commencer, alors que la réouverture du musée Cocteau à Menton n'est pas prévue avant au moins 5 ans. Affaire à suivre.
Merci Marie, à suivre donc, et on vous retrouve lundi pour de nouvelles actualités
lundi,
culturelles.
Bon week-end à vous.
Bon week-end. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.